Alors, dimanche dernier, c'était Pâques, ceux qui s'en rappellent, ça passe vite. Et nous avons pris un passage, pour ceux qui n'étaient pas là, qui est le passage de Luc, qui décrit la rencontre des disciples d'Emmaüs avec Jésus, qui les a rencontrés en chemin, alors qu'ils marchaient, qui se désolaient de ce qui était arrivé à Jérusalem, de ce que Jésus, leur maître, était mort. Et ils ne savaient pas qu'il était ressuscité, ou tout au moins ils avaient entendu parler des femmes qui avaient bien dit que le corps n'était plus là. Mais pour eux, c'était l'histoire de bonnes femmes, et ils ne prenaient pas ça vraiment au sérieux. C'est très étonnant parce que les femmes étaient très claires, hein, Pierre et Jean aussi. Et là, même à ces évidences scientifiques de la disparition du corps de Jésus, leurs yeux ne se sont pas ouverts. Voyez-vous, il a fallu plus. Et très souvent, nous aussi, nous sommes un peu durs, hein, d'entendement, même en tant que chrétiens, de certaines choses qui nous sont données par la parole et que nous ne saisissons pas. Il faut quelque chose de plus. Il faut que notre cœur soit touché. Alors, j'intitulerai ces enseignements, parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas finir, malheureusement, mais ce n'est pas important. Le principal, c'est que Dieu nous parle. C'est comment annoncer la bonne nouvelle, hein. Comment évangéliser. Vous avez envie d'évangéliser, hein? Oui, que je vois vos mains, si vous avez envie. Bon, l'envie, c'est une chose. Le faire, c'est une autre. Et c'est vrai que dans notre pays, hein, moi-même, quand j'étais étudiant, j'étais à Paris. Et là, j'ai rencontré Michel. On s'est rencontrés sur la base d'une évangélisation. On évangélisait. Moi, j'ai évangélisé dans le métro, partout où j'étais. On a un cœur d'évangéliste. Mais c'est vrai qu'on était un peu émoussé, comme on dit, vous savez, une flèche émoussée, par la difficulté qu'on rencontre dans ce pays. Quand on voit dans d'autres pays, l'évangélisation est très facile. Bon, à Paris, c'est encore un peu plus facile, mais c'est un endroit un peu particulier. Il y a beaucoup de brassages internationaux, etc. Mais le vrai français de souche, c'est très difficile et on s'émousse un petit peu. Mais c'est pas parce qu'on s'émousse qu'il faut abandonner l'idée de le faire, hein. Donc, je suis très content que vous ayez toujours cette intention. Donc, on va voir un peu comment certaines personnes ont fait pour évangéliser. Et un de ceux qui est le premier évangélisateur, c'est Jésus. Est-ce que vous voulez voir Jésus, comment il évangélisait, hein? Est-ce que vous croyez que lui peut vous donner un modèle d'évangélisation, hein? Donc, c'est déjà bien. Après, on va voir un autre modèle qui est Pierre. Vous croyez que Pierre aussi peut être un modèle pour nous, hein? Pierre, qui était le fougueux, hein, pour le Seigneur, malgré s'il était faux, eh bien, c'était un évangéliste. Il apportait la bonne nouvelle. Puis un troisième, bien sûr, Paul, hein, tombe toujours sur les mêmes, mais c'est aussi un évangéliste, bien sûr, un docteur, etc. Mais regardons un peu comment Jésus, Pierre, Paul évangéliser. Et on ne va pas relire, bien sûr, ce matin, ce passage des disciples d'Emmaüs, donc je vous invite à le lire. C'est dans Luc 24, 13 à 35. Et comment évangéliser ? Alors, je vous donne un peu la base du message, hein, c'est évangéliser en communiquant la foi, hein. Jésus a communiqué la foi, Pierre a communiqué la foi, Paul a communiqué la foi. Si nous ne communiquons pas la foi, effectivement, l'évangélisation, elle tombe à terre, hein. Si nous communiquons par l'intellect, par les émotions, hein, les arts, hein, moi je suis tout à fait pour les arts, et c'est ce qu'on pratique dans l'Église, mais c'est pas l'art pour l'art, hein, c'est l'art pour la foi, hein, c'est la parole pour la foi, c'est l'intelligence de la raison pour la foi. Voyez-vous, l'objectif, c'est communiquer la foi, hein. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut toucher ? Il ne faut pas toucher la vue. Hein. C'est pour ça aussi, dans l'art, il faut faire très attention à ce qu'on communique. Pas communiquer à la vue, communiquer au cœur. Hein. Communiquer au cœur, qui est le siège de toute la personne. Hein. Et lorsque nous lisons ce passage d'ici d'Emmaüs, c'est très intéressant, parce que avant que Jésus ne vienne avec eux, hein, ils avaient tous les éléments pour croire. Hein. Avant qu'ils ne rencontrent Jésus sur le bord du chemin qui menait de Jérusalem à Jéricho, Ils avaient tous les éléments pour croire, et pourtant ils ne croyaient pas. Les femmes leur avaient dit le corps a disparu. Pierre, Jacques et Jean, Pierre et Jean ont dit le corps avait disparu. Ils ont dit qu'ils ont vu des anges, enfin toutes sortes de choses qui sont surnaturelles, qui leur donnaient tous les éléments, surtout pour le fait que c'était des disciples d'Emmaüs, hein, des disciples, c'était pas des païens. Donc ils connaissaient la parole, ils connaissaient l'écriture, ils connaissaient les histoires de Jésus, ils avaient connu pendant 3 ans Jésus, et tout cela ne suffisait pas pour croire. Hello? Voyez-vous que la vue, et ils ont vu des choses, mais la vue est limitée au visible. Alors la vue, à mon avis, c'est pas, quand on parle de la vue, c'est pas uniquement les yeux. Hein. Bon, les yeux, c'est le capteur 80% effectivement du monde réel. Hein. Mais il y a aussi l'ouïe, il y a aussi l'odorat, hein. Il y a les sens, bon, qui sont complémentaires à la vue, mais qui nous permettent de capter la réalité visible. Mais quels sont ceux ici dans la salle qui croient qu'il n'y a que la réalité visible qui est une réalité? Vous croyez tous qu'il y a aussi une réalité invisible? Hello? Parce que Dieu, il n'est pas un homme. Hello? Dieu, il a des capacités absolument inimaginables. Quand vous regardez le cosmos, aujourd'hui, les scientifiques, ils sont complètement perdus. Parce que tout leur modèle s'écroule. Je lisais encore hier des revues scientifiques en physique. Ils s'écroulent en l'espace de quelques mois. Ils élaborent un modèle et puis quelques mois après, ils font une expérience au CERN. Maintenant, ils ont un nouvel appareil là, au CERN. Hier, le physicien Étienne Klein disait à la radio que cette machine qu'ils ont au CERN, c'est pas tellement pour découvrir des choses, c'est pas pour détruire des hypothèses. Oui. Il y a tellement d'hypothèses parce que ça pullule dans tous les sens entre la matière, temps, l'espace, le temps, etc. Bon, que à l'époque, quelques siècles, il fallait des siècles pour élaborer une hypothèse et la vérifier. Maintenant, c'est en l'espace de quelques mois que des hypothèses tombent. Et il faut tellement d'hypothèses parce que on arrive au cœur de quelque chose qui nous dépasse. C'est Dieu. Quelque chose qui nous dépasse. Et Dieu a des capacités en lui qui nous dépassent, qui n'a pas fait que le visible. Vous savez très bien que, par exemple, nous, on est très limités dans l'audition, et que ce que les chiens entendent, nous, on ne l'entend pas. Les infrasons, les ultrasons, l'infrarouge, l'ultraviolet, enfin, dans tous les domaines de nos sens. Donc déjà là, nous avons scientifiquement des preuves que nous sommes limités, mais... Au-delà de ça, il y a des créatures que Dieu a créées, des anges. Qu'est-ce que les anges? Qu'est-ce que des êtres célestes? Etc. etc. Et l'homme, quelque part, il ressent cela, l'homme du monde. Et bien sûr, il parle d'extraterrestre, bon, parce que ça veut dire tout ce qui n'est pas terrestre. Mais c'est bien plus que ça. Dieu est infini dans sa beauté, dans sa création, dans sa capacité. Or, le moyen de connaître... Ce qui est invisible, c'est quoi? C'est pas la vue, c'est la foi, de croire. Alors bien sûr, l'homme contemporain n'aime pas la foi, parce qu'il a été déçu de siècles de religion qui l'ont emmené au travers de la foi dans des impasses. Et je pense à Galilée, hein, qu'on a mis sur un bûcher quand il a dit que la terre tournait, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas parce que des hommes ont fait des erreurs que Dieu fait des erreurs. On impute beaucoup de choses à Dieu qui sont imputables aux hommes. Et l'homme d'aujourd'hui a beaucoup plus de foi souvent que le chrétien. Beaucoup plus de foi. Même un homme rationnel, un homme occidental qui ne croit qu'en la science, hein, il a beaucoup plus de foi. Il croit que la croissance économique, qu'il y a une croissance infinie. C'est une foi, c'est complètement faux. La preuve, c'est que ça s'écroule du jour au lendemain, l'économie, etc. Toutes les hypothèses qui sont basées sur la foi, sur on croit des choses. Voyez-vous. Or, il croit à des choses qui tout le temps le désillusionnent, qui créent des catastrophes économiques, etc. Et il ne croit pas en Dieu. Voyez-vous. C'est ça l'irrationalité. de cette civilisation occidentale qui est un gouffre de bêtises, sous prétexte qu'on veut évacuer Dieu. Nietzsche a dit l'homme est Dieu est mort. Quelle aberration. Dieu est mort. Une chose pareille, en arriver là, c'est vraiment le comble de la bêtise. Parce que lui-même sait que Dieu existe. La nature, il suffit de regarder ce que Dieu a fait. Mais voilà, ça, c'est le résultat de la vue. Or, pour connaître les choses visibles, invisibles et toutes choses, c'est la foi. Mais pas la foi dans n'importe quoi, c'est dans la foi, nous, dans la parole de Dieu. Parce que Dieu s'est engagé, voyez-vous ? Parce que Dieu s'est engagé dans sa parole. Donc, nous pouvons avoir foi dans sa parole. Et c'est cette parole que nous sommes amenés à présenter aux autres. Jésus, quand il rencontre les disciples, la première chose, c'est qu'il commence par la parole. Il ne commence pas par des histoires, il ne commence pas à essayer de démonter leur raisonnement, il n'essaie pas de justifier certaines choses, il commence par la parole. Il leur explique les Écritures. Hello? Jésus, le grand évangéliste, il leur explique les Écritures. Alors on me dirait, ouais, mais je ne vais pas expliquer les Écritures, ils ne connaissent pas les Écritures, dans le métro. Mais attendez, on ne vous demande pas de raisonner, on vous demande de suivre un modèle. Si Jésus a expliqué les Écritures, eh bien, ça veut dire qu'il y a une raison. C'est qu'en expliquant les Écritures, bien sûr, avec la puissance du Saint-Esprit, Jésus était rempli du Saint-Esprit, eh bien, il communique la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient... On le répète ? La foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient... Amen. Si vous voulez évangéliser efficacement, il faut communiquer la foi. Parce que sinon, ce ne sera pas efficace, vous serez déçu. Vous serez déçu parce que vous aurez un argument, votre voisin, votre vis-à-vis aura un autre argument, et puis sera un argument contre un argument, etc. etc. Bon. Parce qu'on est humain. Nous, en nous-mêmes, on n'a pas un argument supérieur. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est supérieur aux autres. Ça n'a rien à voir. Au contraire, on devrait être plus humble. Mais nous avons la parole de Dieu. Et si nous croyons dans l'efficacité de la parole, vous croyez que Jésus a cru dans l'efficacité de la parole ? Parce que quand il citait les Écritures, il citait la parole de Dieu. Hein ? Certes, c'était l'Ancien Testament à l'époque, le Nouveau n'était pas encore écrit. Donc vous pouvez citer l'Ancien Testament, vous pouvez citer des psaumes, vous pouvez... mais à condition de le connaître. Et c'est pour ça qu'il faut connaître sa parole, il faut connaître la parole, il faut se nourrir de la parole pour pouvoir la citer, pour pouvoir la présenter à ceux vers lesquels nous allons, pour les évangéliser. Et là, il découvre une histoire. Une histoire. L'histoire, c'est très important. Vous savez, tous les gouvernements, quels qu'ils soient, que ce soit totalitaire, pas totalitaire, français, n'importe qui, ils veulent détruire l'histoire. Ils veulent gommer l'histoire. Alors, d'un seul coup, quelques siècles après, vous apprenez que telle chose s'est passée. Bah, tout simplement parce que les gouvernements en place, ils ne veulent pas dire certaines choses des années qui précèdent, parce que ça les gêne, ceci, cela. Donc, ils trafiquent les manuels d'histoire, tout le temps, tout le temps. Écoutez les émissions. Hein, j'ai une historienne en face de moi, c'est vrai, ça ? On trafique l'histoire. Toutes sortes d'histoires. Certaines sont inventées, d'autres sont masquées, d'autres sont effacées, on réécrit les manuels. La première chose, souvent, que les gouvernements qui font, ils commencent à reprendre les manuels d'histoire. Pourquoi ? Comme si c'est la vraie histoire, il n'y a pas besoin de les reprendre. La première chose qu'ils font. Parce que ça joue sur le mental des gens. L'histoire. L'histoire de la nation, l'histoire de... etc. Or, est-ce que cette parole a été reprise au cours des siècles ? Elle présente une histoire. L'histoire de l'humanité, l'histoire du salut, l'histoire de la rédemption. Ça, c'est fiable. Vous prenez tous les manuels d'histoire de toutes les nations, quelles qu'elles soient, elles sont trafiquées. Vous trouvez d'autres choses qui disent « Ah oui, mais attendez, ça vous a caché ça. On a trouvé des trucs... » Une fois, avec Michel, on aime bien les gîtes d'étape. Vous savez, on va chez les gens, et puis on est dans l'hôtel, vous rencontrez des gens. Et puis une fois, on était à Metz, on ne connaissait pas cet endroit-là, parce que Mes parents habitaient à Strasbourg, donc on a fait une petite étape à Metz. Puis on dit, tiens, on se paye un château, c'est pas beaucoup plus cher qu'autre chose. Un château du Moyen-Âge, on y était, et puis on prend le petit déjeuner, et puis on voit un portrait de Jeanne d'Arc avec son mari. Alors on dit, c'est quoi ça? Alors il nous explique toute l'histoire. Il dit, oui, on a découvert ça. On a enlevé le plâtre et tout ça, était marié. Bon, on ne savait pas. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas dans l'histoire. Hein. Bon, alors on n'y croit pas, bon, ça c'est un autre problème, mais c'est juste un exemple. Bon, on découvre des choses hein, dans l'histoire. Or, cette histoire, elle est vraie. Elle n'est pas trafiquée, elle n'est pas reprise. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a utilisé des hommes, alors ça s'appelait les Massorètes, en Galilée. Hein. Ils existent encore, hein. Ils se sont transmis, c'est des imprimeurs, si vous voulez, enfin des imprimeurs modernes. Hein. C'est qu'on a un imprimeur au milieu de nous ce matin. Eh bien, ils ont une capacité de transmettre l'écriture incroyable. Incroyable, c'est unique au monde. Hein. Une façon d'écrire, une façon de relire, de contrôler pour que tout ce qu'ils écrivent, qu'ils transmettent, ça soit parfait, de génération en génération. Et la preuve, c'est quand on a découvert les manuscrits de Qumran, eh bien, on a découvert que c'était 2000 ans avant, c'était le même texte qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est unique, unique en son genre. D'ailleurs, en ce moment, il y a l'Expo Bible à Saint-Germain, ceux qui peuvent y aller cet après-midi. On pense l'exposer en 2011-2012 dans le Mantois. Tout ça, vous est expliqué que la Bible est unique, un livre unique dans toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'on le présente d'ailleurs le patrimoine de l'humanité. Donc, ils découvrent une histoire vue par Dieu, mais aussi qui décrit les hommes, non pas tels qu'ils devraient être, non pas des légendes dorées, mais, vous rappelez Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, vous voyez, ils ne cachent pas les défauts des gens. Mais au travers de ces défauts, de ces hommes, de ces femmes, auxquels on peut s'identifier parce qu'on est pareil, eh bien, il y a la foi. Il y a le fait de faire confiance à un Dieu qui nous a créés et qui a nos destinées dans sa main. Et il découvre l'histoire que Jésus leur raconte. Il disait, ces choses que vous voyez là, vous lamentez parce que Jésus est mort. Vous lamentez parce qu'il y a eu la croix. Vous lamentez parce qu'il est allé dans le tombeau. Mais vous n'avez pas compris que ça devait arriver. Vous n'avez pas compris ça. Et Jésus, au travers de l'histoire, devait leur montrer que c'était annoncé, que c'était ce qui devait se faire, que c'était le dessein éternel de Dieu de demander à un homme, d'accomplir parfaitement la loi de Dieu et de donner sa vie pour d'autres hommes. C'était écrit. Donc cette histoire est vraie, cette histoire est sûre, cette histoire est fiable, cette histoire a été prévue, cette histoire est arrivée, et cette histoire est devant vous. Je me présente à vous. Et sans se présenter, Jésus, eh bien, leur expliquer ça, se leur réchauffer le cœur, parce que se leur donner de l'espoir. Vous prenez aujourd'hui tous les journaux, toutes les radios, toutes les télévisions, etc. Vous n'entendez que une chose, c'est que les gens sont désespérés. C'est vrai ce que je dis ou pas? C'est blasé, désespéré. Ils ne croient plus en avenir. Et c'est un petit peu pour cela, une des raisons hein, du post-modernisme. Le modernisme, c'est tout le domaine scientifique qu'on a développé au 19e et au début du 20e. Et le post-modernisme, c'est bof. La génération bof. Bof, comme on ne sait pas où est l'avenir, comme on sait qu'il y a une bulle qui nous attend. Il y a le bulle Internet, après il y a la bulle... C'est quelle bulle qui nous attend? Quelle bulle? Ben, comme on ne sait pas la bulle, ben, on profite. Donc bouffons, mangeons, réjouissons-nous. Bon, le plus vite possible, ben, c'est ça. Bon, je caricature, mais c'est l'immédiateté. On ne pense plus à la transmission. Avant, on pensait à la transmission générationnelle, les valeurs, etc. Là, on ne sait pas. Qu'est-ce qui nous attend demain? On ne sait pas. C'est blasé. La vie n'a pas de sens. On ne sait plus l'avenir. Tout le monde nous ment. Tous les gouvernements nous mentent. On sait qu'on nous ment. Vous voyez, pour passer les retraites, on sait que payer des retraites... Bah, on veut passer la réforme, c'est pas possible. Plus personne ne croit, plus personne, parce que on se dit mais qu'est-ce qui nous cache, vous voyez, la corruption partout, etc. Je décrirai rapidement la situation, mais c'est vrai qu'on est perdu. Ce livre-là nous donne l'espérance, l'espoir. Amen. Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre après la mort et la résurrection de Jésus? Est-ce qu'il y a un autre avenir qui est écrit dans ce livre? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit, entre autres? Pardon? La vie, et concrètement, historiquement, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va revenir. Maranatha. L'épouse et l'Église disent Maranatha. Vous attendez pas le retour de Jésus? Alors, dites-le. Dites-le. C'est un événement important. Historique. C'est pas quelque chose auquel on pense comme ça. Tiens, c'est un mystère. Tiens, c'est un symbole. Non. Historiquement, à un moment donné, le ciel va se déchirer et Jésus va revenir. Il y en a qui croient ici, ça? Ou est-ce que je suis le seul? Non. Mais il faut l'avoir présent. C'est de l'histoire. On est dans de l'histoire. On est dans du réel, on est dans du concret, dans du solide. Et c'est cette histoire que nous devons véhiculer. C'est cette histoire que nous devons transmettre. C'est cette histoire qui donne de l'espérance. C'est cette histoire qui donne de quoi s'accrocher à une réalité, non pas une illusion. Pour eux, à l'époque, aujourd'hui c'est autre chose, à l'époque, les disciples d'Emmaüs, ils n'avaient qu'une seule envie, c'est d'être libérés du joug des Romains. On les comprend. Nous qui étions sous le joug des Germains, vous entendez dans toutes vos familles, en tout cas dans la mienne, c'était qu'une seule envie, c'était d'être libérés du joug des Allemands. Qu'une seule envie. On était prêt à donner sa vie dans la résistance, partout, pour être libéré, pour être libre. Le joug de quelqu'un qui vous embrigade, qui vous emmène d'ailleurs dans sa doctrine de guerre, etc., c'est abominable. Et ça, c'était les Romains à l'époque. Et ils n'avaient qu'une envie légitime, c'est d'être libéré des Romains. C'était leur préoccupation quotidienne, actuelle. Ils en parlaient le matin. Bon, vous parlez d'autre chose en disant quel est le match de foot demain, machin, etc. Bon. Eux, ils parlaient des Romains. Et c'est normal. Ils disaient, mais quand est-ce qu'ils vont partir? Quand est-ce qu'on va être libre? Un jour, ils se sont révoltés avec les Maccabées, juste quelques centaines d'années avant la venue de Jésus, parce qu'ils étaient sous le joug des Séleucides, qui étaient les Grecs à l'époque, et ils ont pris leur autonomie, pas pour longtemps, parce que les Romains, après, sont venus, paf, ils ont mis le joug dessus. Et ce qu'ils voulaient, c'est une autonomie, c'était être libre. Et quand Jésus était là, ils ne voyaient que ça. Ils avaient oublié les Écritures. Pourtant, ils les connaissaient. Ils les lisaient à la synagogue. Ils avaient oublié dans l'Écriture que le Messie qui allait venir devait souffrir d'abord. Or, eux, ils attendaient le Messie qui allait les libérer d'abord. Et la souffrance, alors? Vous voyez, il faut prendre toute l'Écriture, pas une partie de l'Écriture. C'est toute l'Écriture qu'il faut prendre. Allô? M'entendez? Parfois, il y a des chrétiens qui... Oh, c'est bien, je prends ce verset-là. Et le lendemain, oh, je prends ce verset-là. Non, c'est toute l'Écriture qu'il faut prendre. Il faut connaître toute l'Écriture. Parce que sinon, on passait à côté de certaines choses. Et pour eux, Jésus devait les libérer du joug terrestre des Romains. Et ils n'attendaient que cela. Alors, c'était caché au fond de leur cœur. Jésus parlait et ils attendaient ça. Ils ne comprenaient pas vraiment les paraboles, parce que lui parlait du royaume de Dieu, et ils pensaient au royaume des Romains. Bon, vous voyez, on était en décalage. Ils étaient en décalage constant, quoi. Et c'est pour ça qu'ils étaient désespérés, parce qu'ils ont dit, mince, il est mort, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les Romains, on les a sur le dos, c'est fini, notre espoir a disparu. Voyez-vous, quand on attend de mauvaises choses, si vous attendez d'être riche, si vous attendez d'avoir une Rolls et tout ça, vous serez toujours déçus. Bon, peut-être qu'un jour vous l'aurez, mais vous savez, quand vous la gagnez au loto, il y a des prédateurs. Hein. Alors là, vous avez intérêt à vous barricader de partout, parce que tout le monde vous appelle. Bon, ce n'est pas forcément une bonne chose. Dans tous les cas, de toute façon, vous allez perdre votre stress. Mais la vie éternelle, vous l'aurez pour l'éternité. Hello? Des valeurs sûres, des valeurs de la parole, des valeurs du royaume de Dieu. Et Jésus leur parlait du royaume, et eux, ils interprétaient libération du joug des Romains. Encore eux, ça allait. Mais il y en avait un parmi eux qui était idolâtre en plus. Alors, si on a déjà une mauvaise théologie, et en plus un idolâtre, là c'est la fin de tout. C'était Judas. Judas, il croyait pareil que les autres disciples, hein, que Jésus était là pour les délivrer des Romains. En plus, il aimait l'argent. Et là, ça l'a foutu en l'air. Mais ils étaient dans la même dynamique. Hein. Judas, simplement, il était, il allait là où il y avait de l'argent. Donc, c'était les gouvernants de l'époque, hein, les anciens qui dirigeaient, il y avait la puissance. Et ils l'ont attiré par l'argent en disant, bah, tu sais, là, Jésus fait pas du bon boulot, hein, parce qu'il nous met à dos les Romains. Là, hein, c'est faut faire quelque chose, quoi. Ah oui, c'est vrai. Bon. Puis hop, petit coup de dessous de table, c'est terminé. Ils pensaient faire une bonne action, quoi. Mais lui était dans la mauvaise théologie, mais les autres disciples aussi. Ils n'avaient pas compris. Attention à notre théologie. Si nous nous attachons trop au monde, notre théologie va se teinter du monde. Elle va se teinter du monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et notre espérance, notre foi, notre amour va baisser. Donc faisons attention. Judas fait cette erreur, il est allé jusqu'au bout, il a fait l'irréparable. Par la vue, nous ne voyons qu'une partie des choses, mais par la foi, nous voyons la totalité. Moi-même, je peux vous donner mon expérience de conversion, ça a été ça. Ça a été ça, moi j'ai toujours aimé Dieu depuis tout petit. Bon, j'étais élevé dans la religion catholique, je servais la messe, etc. J'étais très 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 pratiquant, très très engagé. Jusqu'à l'âge de 20 ans. Et là, je rencontre un copain qui a fait une expérience avec Dieu. Donc, il m'a parlé différemment. Il m'a parlé d'une relation personnelle. Je sentais qu'il y avait quelque chose de différent chez lui. Et puis, surtout, il m'a parlé du retour des Juifs en Palestine, puisque c'était en 67 que je me suis converti. Et en 67, il y avait la guerre des Six Jours, qui était un miracle. Paris Match faisait des grandes photos comme ça. Ils appliquaient souvent des principes de l'Ancien Testament, et puis les mêmes choses arrivaient, des miracles incroyables. Ils n'avaient pas d'armes, les Arabes partaient devant eux, enfin, des choses incroyables. Ils prenaient des casseroles, ils faisaient du bruit, paf, ça partait. Enfin, le truc, rien, quoi. Ils se battaient contre des canons en face, et puis eux, juste les mains vides, quoi. Et il m'a raconté ça, il m'a dit, mais tu sais, ça c'est Dieu. Je dis, Dieu? Attends, Dieu, c'est... Pour moi, c'était le Dieu infini, le Dieu puissant, tout ça. Il agissait pas dans l'histoire des hommes. Enfin, je le voyais pas. Bon, il y a 2000 ans, tout ça. Mais d'un seul coup, il me parle d'aujourd'hui, là, 67, là, au jour où je vivais. Et puis, il m'a renvoyé sur 48 en disant, tu vois, c'est ça. Et je m'en suis aperçu après, mon cœur se réchauffait parce que je sentais qu'il me disait quelque chose de vrai qui se passait aujourd'hui, qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait palper, qu'on pouvait mesurer une histoire d'aujourd'hui. Alors, ne parlez pas aux gens que vous évangélisez de ce qui s'est passé il y a 50 ans, ou 60 ans, ou votre mère, ou grand-mère, mais dites ce qui passe aujourd'hui, pour vous, pour ce qu'il y a autour de vous. Essayez de discerner les temps. Lisez l'histoire, les journaux, avec ce regard. Qu'est-ce que Dieu fait? Et transmettez-le. Et là, vous aurez un impact. Peut-être pas extérieur. Moi, ça s'est passé dans le cœur. Et je me suis converti après que j'ai vu ce garçon. Mais dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Et la lumière s'est faite. C'est fait dans le cœur, mais comme les disciples, j'ai dit, quelque chose s'est réchauffé en moi. Il faut que la foi se réveille à l'écoute de réalité objective aujourd'hui et maintenant. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui agit aujourd'hui dans l'histoire. C'est un Dieu qui agit aujourd'hui et maintenant. L'interprétation du Messie souffrant, bien sûr, ce n'était pas très glorieux et pas un avenir pour eux, mais ils ont oublié le sens des prophéties. Alors, on va lire rapidement l'évangéliste Pierre, comment il a évangélisé, et tirer un peu quelques enseignements de Pierre en lisant Acte 2, chapitre 2, versets 16 à 37. Donc, c'est le premier discours de Pierre après la venue du Saint-Esprit sur l'Église et sur les disciples. Et donc, il s'adresse à la foule et il commence son premier message d'évangélisation. Donc, nous pouvons effectivement apprendre de sa part. Alors, je vous donne tout de suite le sens de l'interprétation de ce message. C'est qu'il répond au QQO-QCP. Il y en a qui connaissent ça, le QQO-QCP? Non? Non. C'est les questions existentielles que, en principe, en formation professionnelle, vous apprenez pour répondre à tout un problème. Si vous avez un problème, vous répondez à toutes ces questions. Qui, quoi, où, quand, comment, combien. Si vous répondez à ça, vous avez répondu à toute la problématique d'un problème. Voilà. Et donc, la problématique du problème, il est là. Et Pierre l'expose au travers de... Il répond à ses attentes. C'est des attentes, si vous voulez. C'est simplement, si vous répondez à chacun des points, globalement, vous répondez à l'ensemble du problème. Alors, le discours de Pierre, au chapitre 2, verset 16, est le suivant. Ce qui a été dit par le prophète Joël, voyez-vous, il cite les Écritures, comme Jésus. Ce qui a été dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auraient des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, afin que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Cette partie-là n'est pas encore accomplie, c'est ce que nous attendons. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu, très important, approuvé de Dieu, devant vous, approuvé de Dieu devant vous par des miracles, des prodiges, des signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Voyez-vous, il les renvoie à des fêtes, vous le savez, vous l'avez vu. Pendant 3 ans, il a fait ça devant vos yeux. Cet homme, verset 23, livré selon le dessein ou selon le plan, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies, c'est-à-dire par les Romains, par la main des Romains. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. On reviendra là-dessus. Car David a dit de lui, voyez-vous, il argumente par la parole. Il argumente pas par des raisonnements. Oui, Jésus devait ressusciter parce que, bon, et puis il invente un truc. Non, parce que dans toutes les religions, pratiquement, il y a ce mythe de la résurrection, dans toutes les religions. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que toutes les religions sont les mêmes. Que ce soit en Syrie, dans toutes les religions. À l'époque, il y avait Mitra qui faisait la concurrence au christianisme. Mitra, il renaît. Enfin, la résurrection, c'est une renaissance cyclique comme le printemps, vous voyez. Et dans toutes les religions, que ce soit en Inde, partout, etc. Donc, le fait de la renaissance existe. Mais le fait de sortir de la mortalité, d'un mort, pas le fait de parler d'un mythe de résurrection, d'une réalité de résurrection. Ça, c'est unique au monde et dans toute l'histoire et dans le cosmos. Jésus est ressuscité des morts. Et c'est ce que David a vu. Et c'est pour ça qu'il cite l'Écriture. Il cite l'Écriture. C'est le psaume 16, verset 8, à partir du verset 8. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur... » Voyez-vous, il est question du cœur, se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne me laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Frère, il cite l'Écriture et s'adresse à ses frères. Frère, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort. Hello ? David, qui parle de ce psaume, il est mort. C'est un fait. On est dans l'histoire. Qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Apportant les faits, les preuves, il existe encore. Comme il était prophète, prophétie très importante dans la Bible, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ. Voyez-vous, il fallait le deviner, la résurrection du Christ dans ses paroles. Vous l'auriez deviné à la place ? Pas évident, pas évident. Pourtant, c'était écrit. Mais il faut le discernement du Saint-Esprit, il faut la vision du Saint-Esprit, il faut le cœur attaché au royaume pour découvrir les perles du royaume. Jésus a dit, là où sera votre cœur, aidez-moi. Voilà, là où sera votre trésor, là où sera votre cœur. Où est notre trésor ? Est-ce que le trésor est dans ce monde ? Hier, on parlait un peu en réunion d'hommes. Quelles sont nos valeurs ? Où est-ce qu'on les met ? C'est important de... Bon, c'est vrai qu'il faut penser à notre avenir, mais notre avenir éternel est bien plus important, incommensurable par rapport à notre valeur présente. Et là, il est question de ces paroles qui parlaient de la résurrection du Christ, qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Le tombeau était vide. La chair de Jésus était partie. Le corps est ressuscité. Résurrection des corps. Je vous l'avais dit la dernière fois, c'est ce qui a choqué les Athéniens. C'est ce qui choque toutes les religions. Toutes les religions, parce qu'ils ne croient pas à la résurrection des corps. Pourquoi ? Parce que ça n'existe pas dans leur religion. Ils sont incapables, il n'y a pas de puissance pour ressusciter un mort. Il y a une puissance pour vous illusionner, c'est vrai, par le fait que Mitra, Apollon, machin, c'est le soleil et tout ça. Bon, tout ça, c'est formidable, toutes ces théories fumeuses. Et ça marche. Mais ça vous laisse dans les liens de la mort. Seul Jésus est sorti des liens. Les liens, ce sont des liens, c'est-à-dire vous êtes liés, les liens de la mort. Vous êtes dans la mort, vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes dans un cachot, une prison, et personne ne vient vous délivrer. Hello ? C'est ça les liens. Or, Jésus a été délivré par Dieu. Dieu est venu dans le cachot de la mort pour le délier. Pourquoi ? Parce que c'était un juste qui est mort. Le seul juste jamais vécu sur la terre, c'est Jésus. Et il a délié des liens de la mort. Rappelez-vous que notre premier ennemi, ce n'est pas Satan, c'est la mort. Et le dernier ennemi dans l'histoire, c'est la mort qui sera liée. Mais elle a déjà été liée, déliée une première fois avec Jésus. Donc ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Voyez-vous, une affirmation. On cite les Écritures et on actualise. Ce Jésus, pas un autre Jésus. Pas le Jésus mythique, pas le Jésus de Mitra, pas le Jésus, non. Non, c'est ce Jésus dont il est parlé dans l'histoire, dont David, un homme historique, a prophétisé, dont les prophètes ont annoncé, Isaïe, etc. Ce Jésus, voyez-vous, il faut être très précis quand vous évangélisez. Non pas qu'il faut prendre... Vous n'avez pas besoin d'avoir un marteau pour taper sur la tête des gens en disant ce Jésus. Mais... Quand Pierre parlait, c'était ce Jésus en étant convaincu de ce qu'il disait. Alors, c'est la conviction qui apporte la foi. Vous me suivez ? Ce n'est pas la puissance de la parole, audible, les décibels. Ce n'est pas secouer les gens, c'est rien de tout ça. C'est ce Jésus. Dieu l'a ressuscité. Alors ? Et ça touche les cœurs. Vous pouvez partir, vous n'avez plus rien à dire, vous pouvez prier dans votre chambre, il va être secoué le gars, ou la fille, peu importe. Si vous y croyez, cette évangélisation est marche. Nous en sommes témoins. Il s'implique Pierre, et nous sommes témoins. Vous pouvez être témoin, vous dites, moi Jésus m'a changé, m'a libéré, j'en suis témoin. Et si vous le dites avec authenticité, que les gens voient que vous avez changé, ils seront touchés. Moi, j'étais touché parce que ce gars-là, qui m'a évangélisé, je connaissais ses défauts et tout ça. Je dis, je vais le tester. Oui, j'étais un peu filou, là. Je vais le tester. Et je lui ai demandé un truc que je savais qu'il pouvait pas faire. Il l'a fait. Je dis, ça... Enfin, au fond de moi, j'étais touché. C'est-à-dire, j'ai cru les paroles qu'il m'a dit précédemment, vous voyez, à cause de ce test. Parce qu'il avait Jésus dans son cœur, il était changé, et il a fait des choses qu'il faisait pas avant. J'en suis témoin, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. À la Pentecôte, le Saint-Esprit était répandu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est répandu sur les croyants. Alors, pas uniquement sur les charismatiques. Hein. C'est pas une question de charismatique ou pas. C'est tous les croyants, quels qu'ils soient, le Saint-Esprit est répandu. Amen. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas croire. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre la foi. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas exercer les dons. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas évangéliser. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons rien. Parce que c'est la vie de Dieu, la vie spirituelle qui coule en nous. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il a dit lui-même, le Seigneur a mis mon Seigneur, a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous savez ce que c'est qu'un marchepied ? C'est l'escalier, les marchepieds, et vous avez au-dessus un trône. Eh bien, tous les ennemis seront mis sous les pieds de Jésus. Tous les ennemis, quels que soient les ennemis. Et le dernier ennemi, c'est la mort. Satan, il sera lié avant et ensuite la mort. Donc il y a une progression. Mais aujourd'hui, si tu as un ennemi dans ta vie, que ce soit toi-même, tu peux être ton propre ennemi. Les gens qui sont leurs propres ennemis. Les gens du mensonge, c'est leur propre ennemi. Ils mentent à eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est le pire des cas, c'est du mensonge. Sortez du mensonge. Quel que soit le mensonge, sortez du mensonge. C'est l'ennemi, il a trouvé un truc là. C'est de vous mentir et vous mentez à vous-même. Donc vous pouvez être votre ennemi. Mais cet ennemi peut être mis sous les pieds de Jésus à la croix. Allez à la croix. À la croix, tout est pourvu. Et mettez le mensonge à la croix. Ça peut être des ennemis physiques, enfin des difficultés que vous avez à payer votre loyer, peu importe. Cet ennemi-là est mis sous le pied de Jésus. Jésus a la solution pour toi. Mets ta confiance en lui. Ça peut être des ennemis spirituels, ça peut être des puissances. Nous, on avait ici un ennemi énorme, spirituel. Jésus l'a vaincu. Il nous a appris des choses au passage, mais Jésus l'a vaincu. Et Jésus, dans toutes les situations où se trouve l'Église, il est là pour aider l'Église à vaincre l'ennemi. Tous les ennemis seront sous les pieds de Jésus. Et nous, nous sommes des adorateurs. Nous sommes appelés à être des adorateurs de Jésus. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude, certitude, c'est l'assurance, l'autorité, et cette audace de l'évangélisation. Donc que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus n'est pas simplement sorti de la mort, il n'a pas simplement passé de la mort à la vie, il est devenu Seigneur. Alors c'est important ça. Dans l'évangélisation, de dire que Jésus est Seigneur. Il n'est pas simplement Sauveur. Il n'est pas simplement, ça y est, il a repris vie. Bon, non, non. Il est devenu Seigneur. Et toute l'argumentation de Paul, en particulier du verset 25 au verset 28, Pierre veut montrer que Jésus est Seigneur. Est-ce que vous voulez présenter Jésus comme Seigneur? Hello? Hello? Je ne vois pas vos mains. Vous voulez présenter Jésus comme Seigneur ? Alors, est-ce qu'il est votre Seigneur ? Est-ce qu'il est ton Seigneur ? Seigneur, ça veut dire quoi ? Seigneur. Ça ne veut pas dire Sauveur. Seigneur. Celui qui commande ? Est-ce que vous êtes soumis à celui qui commande ? Celui qui dirige ? Est-ce que vous êtes soumis à sa direction ? Quoi encore comme... C'est quoi Seigneur ? Maître ? Celui qui enseigne ? Est-ce que vous écoutez et mettez en pratique ces enseignements? C'est là le problème des chrétiens. Vous savez, c'est facile d'aller à Bercy, dire « j'accepte Jésus dans ma vie », ok, vous êtes sauvés. Mais après, il faut le faire Seigneur. Il faut le faire Seigneur, notre vie. Pardon? Sans négociation. Parce que si nous négocions, nous mettons notre chair dans la balance. Jésus doit être Seigneur si nous voulons que le mot Seigneur, quand nous évangélisons, écoutez-moi bien, C'est important ce point-là. Si vous retenez que ce point-là, ce matin, retenez celui-là. Si vous voulez évangéliser en disant Jésus est Seigneur. Hello? Vous dites ça? Il faut d'abord qu'il soit votre Seigneur. Sinon, ça sonne faux. Après, on s'étonne que les gens, ils acceptent pas Jésus. Ben oui, mais s'il n'est pas notre Seigneur. Moi, j'ai pris plaisir, il y a à peu près un an, à lire un livre écrit par un non-chrétien, de la vie de Martin de Tours. C'est le fameux Saint Martin. C'est le plus grand nombre de villages s'appelle Saint-Martin en France. Bon, ils ont même voulu faire un club, parce que moi je suis à Saint-Martin à Garin, un club des maires des Saint-Martin. Bon, tellement il y en a. Je ne sais pas combien il y en a, Michel le sait. Mais c'est le plus grand nom. Parce que c'est un évangéliste du 4e siècle, un Hongrois. Tiens, un peu comme Sarkozy, mais bon, ce serait bien qu'il soit évangéliste. Un Hongrois qui était soldat romain, qui était envoyé par garnison romaine en Gaule. Et en Gaule, eh bien, il a rencontré le Seigneur. Et c'était un homme. Jésus était son Seigneur. Il a été convoqué par Charles Quint à l'époque. Il a osé défier la coutume qui était de prendre la coupe et de le donner au roi. Il a donné à un serviteur de Dieu qui était à côté. Tout le monde, c'est comme une mouche qui volait en disant, ça y est, on va être décapité. Parce qu'à l'époque, ça ne traînait pas. On faisait quelque chose contre la règle. Charles Quint, il a respecté, parce qu'il savait que c'était un homme de Dieu. Il ne respectait pas les dirigeants religieux, mais Saint-Martin s'est fait respecter. Mais quand il disait aux éléments de se soumettre, il se soumettait. Quand ils l'ont mis, quand ils l'ont voulu se débarrasser de lui, et que tout le village s'est réuni parce que il délivrait les gens, il détruisait les idoles et tout ça, et qu'ils ont abattu un chêne énorme pour le faire mourir lié par terre, eh bien, il a mis la main, le chêne s'est arrêté. Un miracle et tout le monde s'est converti. Parce que Jésus était son Seigneur. Si Jésus est notre Seigneur, nous avons toute la puissance du ciel, de la terre, de l'enfer avec nous. Hello? Hello? Et rien ni personne ne peut résister à Jésus. À nous, oui, mais pas à Jésus. Mais si Jésus est en nous, si le Seigneur est en nous, si nous l'avons fait Seigneur, eh bien notre message va produire de la foi. Hello? Et c'est ça dont nous avons besoin. C'est de produire de la foi. Amen. Producteur de foi. On va inventer ça. Producteur de foi. Hein, Jamie, tu vas te... Hein, tu vas monter une usine, là. Producteur de foi. Pas de foie gras. Hein. Faut produire la foi dans l'évangélisation. Amen. Alors, vous voyez un peu l'évangélisation de Pierre, elle ressemble pas mal à celle de Jésus. Hein. L'Écriture. Il cite l'Écriture. Il est convaincu de ce qu'il dit. Il présente l'évangile de manière historique au présent. Jésus rompt le pain. Il est présent hein, avec ses disciples. Et qu'est-ce que ça produit? Verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le pas la vue. Ils en ont plein la vue. Ils en ont plein le cœur. Amen. Ils eurent le cœur vivement touché. Rappelez-vous que Jésus est l'esprit vivifiant, qui vivifie, qui donne la vie. Le Saint-Esprit est un esprit vivifiant. Et quand notre cœur est touché par la vie, alors là, ça germe, là, ça pousse, la foi est produit des choses extraordinaires. Ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » La conscience est touchée. Début de la repentance, c'est la conscience. Je ressens que moi, je suis rien, que Dieu peut tout. Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma démarche? Et Jésus, bien sûr, dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. » La repentance, bien sûr, est la réponse de Pierre. Amen. Pierre aborde l'histoire par le prophète Joël. qui prophétise sur ce kairos. Alors on verra un peu plus les éléments techniques la prochaine fois, parce que j'ai pas le temps. Mais Jésus donne sens à l'existence, donc ce sont ces questions existentielles. D'où est-ce que je viens? Pourquoi je viens? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Enfin, toutes ces questions que tout le monde se pose, que les philosophes se posent. Hein. Bien sûr, les réponses ne sont pas les mêmes que celles de l'apôtre Pierre. Hein. On appelle ça les philosophes existentialistes. Vous avez entendu parler de ça? Je ne parle pas barbare ici. Au XXe siècle, Sartre, Camus, ces philosophes, existentialisme. Ils ont prétendu répondre à cette question de l'existence. Pourquoi nous sommes là, etc. Vous savez ce qu'elle a dit, Simone de Beauvoir, pour rassurer un peu les foules, rassurer ses adeptes. Vous voulez être une adepte de Simone de Beauvoir, des existentialistes? Hello? Vous voulez un peu de blues, là? Vous savez ce qu'elle a dit, Simone de Beauvoir? Pour bien gonfler la foi. La vie est absurde. La vie est absurde. Après, vous vous étonnez que les gamins de banlieue, ils se tirent n'importe quoi, etc. C'est ça le message de la philosophie, la sagesse du monde. Voilà où c'en est arrivé. On a tout essayé, toutes les philosophies sont passées au peigne fin. Là, les existentialistes, ils arrivent, ils disent la vie est absurde. Hello les gars, la vie est absurde. Pourquoi vous vivez? C'est absurde. Mettez-vous un flingue, mettez-vous une balle dans la peau, c'est absurde. Voilà le message. Et tout le monde le gobe. Enfin, tout le monde, non, heureusement. Est-ce que Pierre, il donne ce message-là? Alors, donnez le même message. Donnez le message de la vie en abondance. Amen. Nietzsche, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu est mort. Ben oui, il n'y a plus rien à espérer, hein. Même plus de Dieu. Des hommes, bon, ça fait longtemps qu'on n'y croit plus, hein, avec tout ce qui s'est passé, les barbaries et tout ça, mais même Dieu est mort. Hein. Quelle espérance, mes amis, c'est formidable, ça. Hein. Formidable, ça. Et voilà. Voilà le message du monde. Hein. Les philosophes sont incapables de donner une réponse à la mort. Incapables. Incapables. Parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils vont mourir. Et c'est ça. Et ils essayent de sublimer ça par leur angoisse existentielle en essayant de faire partager aux autres leur propre angoisse. Certes, l'immortalité est une préoccupation. Ils cherchent tous l'immortalité. La science, en médecine, on veut que l'homme vive à 100, 510, 120, 130 ans. C'est assez marrant parce que à la télé, une fois, j'ai vu, ils ont fait un documentaire en Bolivie, où je ne sais plus, en fait, c'est très haut dans l'Amérique du Sud, je ne connais pas trop. Et le gars, il avait 117 ans, et il a dit, ça fait 30 ans que tous les jours, il sort son tiroir, il avait tout préparé pour ses funérailles, et il a dit, j'arrive pas à mourir. Et donc, alors si c'est ça l'espoir, hein, de prolonger la vie des gens pour qu'ils s'embêtent là à regarder tous les jours, mince, ma mort arrive pas, bon, hein, on a quand même autre chose, hein, ah, la vie éternelle, vous vous rendez compte comment on va s'ennuyer tous les jours, regarder, bon, bah bon, c'est un peu caricatural, mais je l'ai vu, hein. Ils l'ont montré, les photographes étaient tout contents de montrer ça. Bien sûr, l'immortalité a toujours été une question, en particulier l'alchimie, la gnose. Hein. C'est un ensemble d'illusions, la pierre philosophale, la vie de jouvence, etc., le Graal, etc., l'hermétisme, et tout ça, ça a pénétré le christianisme, et malheureusement, ça a teinté la théologie chrétienne, dont il faut nous débarrasser. Et pour se débarrasser, il faut avoir une relation à Jésus, une relation Christ vivant et ressuscité aujourd'hui et maintenant. Et alors nous aurons le même discours que Jésus, le même discours que Pierre, le même discours que Paul, et les gens auront le cœur vivement touché. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, c'est vrai que nous avons besoin de revoir notre copie, Seigneur, et notre façon d'évangéliser. Et nous voulons regarder à toi, qui nous a donné le modèle, et à tes disciples, Seigneur, que tu as suscité pour établir l'Église. Seigneur, c'est un modèle qui marche parce que, Seigneur, c'est toi qui nous le montre. Et nous voulons te demander ta grâce et ton aide pour que nous puissions être des témoins de ta résurrection. Non pas des témoins d'une religion, mais témoins de la résurrection de Jésus. Seigneur, merci lorsque tu viens en aide à notre faiblesse et tu nous donnes une vision renouvelée de l'évangélisation qui marche parce que nous la prenons du bon bout. Seigneur, aide-nous, nous t'en prions au nom de Jésus.